Radio Okapi.
Quinze membres du groupe armé Mobondo ont été condamnés à mort hier par le tribunal militaire de garnison de Bandundu, Bagata et Maïndombe. Ils étaient poursuivis pour des actes de terrorisme, pillage et participation à des mouvements insurrectionnels faits commis l'année dernière dans le contexte du conflit interethnique de Kwamout au Maïndombe. Les dernières pluies diluviennes et par là des inondations ont détruit plusieurs maisons et fait plus de 100 000 sans-abri dans les territoires de Bukama et Malembankulu, province du Haut-Lomami. Un député provincial de cette province demande une aide d'urgence pour ces personnes. Ingénieur Alain Mugangu est l'invité de ce journal. Il est le chef de division technique de l'Office de route Sud Kivu. Il revient sur la question de la dégradation des routes nationales qui passent par cette province. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. À Bandunduville, chef-lieu de la province du Kwilu, 15 personnes, membres du groupe armé Mobondo, ont été condamnées hier lundi à la peine de mort après la condamnation de plusieurs autres à la même peine par le tribunal militaire de garnison de Bandundu, Bagata et Maïndombe. Ils sont poursuivis pour des actes de terrorisme, pillage et participation à des mouvements insurrectionnels dans l'affaire du conflit interethnique de Kwamout au Maïndombe. Les faits mis à leur charge se sont passés entre août et novembre 2022 sur l'axe routier situé entre les villages Mibe, Mucheto, Shomaku et Bisiala sur la nationale numéro 17 dans le secteur Toa, territoire de Kwamout. Irène Boma.
Il s'agit notamment de Kalwila alias 6 vitesse Satan, Kazunga Mengawani Jean, Kombozi Bokata Cédric, Mingu Kamuleta Manassé, Kake Samiala Arnold, Ngunza Mutesa Patrick, Kabeya Papi alias Sibor, Ngwanza Patience, Suka Mavinga Jean-Pierre, Rodi alias Major, Mopai Georges Mozombo, Manga Kangolo Jérémy, Ngyangia Adeshondo, Ngwala Ngyaka et Kimvula Mbuluku Mbuta. Dans son réquisitoire, l'auditeur colonel Richard Kabeya a requis leur condamnation à la peine de mort pour participation au mouvement insurrectionnel, à la servitude pénale à perpétuité pour pillage et à la peine de mort pour les actes de terrorisme. Ces 15 assaillants sont aussi condamnés au paiement de 12 000 $ à chacune des 13 parties civiles. À l'occasion, le tribunal a déclaré l'extinction de l'action publique à l'encontre de Mumona Fidel, Mutomboka Kweni JR, Makila Tanfumu Fidel, Ngubansamba Kiziba, Kinzombo Mayamba et Lokwa Bolumbu Kembo, tous décédés dans la prison centrale de Bandundu. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Justice pour les victimes de Kisheche et Bambo. Le réseau contre le terrorisme RCT exige des poursuites judiciaires contre les plus hauts responsables du M23 RDF pour les massacres perpétrés à Kishiche et Bambo, deux villages du territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu. Dans un communiqué publié ce mardi, le RCT rappelle qu'il y a une semaine que les terroristes M23 RDF ont libéré la zone qu'ils contrôlaient depuis 2022. Depuis lors, les ONG des droits humains et les médias ont découvert des fosses communes et des ossements humains témoignant des exécution sommaire. Jeff Ngoy.
Ces éléments de preuve corroborent les rapports préliminaires établis à la fin de l'an passé par le BCNUDH. Ce dernier avait confirmé que plus de 170 personnes étaient tuées entre le 29 et 30 novembre 2022 en guise de représailles contre la population civile de Kishiche et Bambo. Il avait conclu que ces violences ont été commises dans le cadre d'une campagne de meurtre, viol, enlèvement et pillage contre les deux villages après les affrontements avec l'armée nationale. Selon le réseau contre le terrorisme, le 14 avril, les mêmes terroristes ont systématiquement pillé l'hôpital général de Rwanguba et la maison des missionnaires, tabassé violemment les infirmiers et emporté tous les biens de valeur. Des actes pareils à ceux qu'ils ont commis à l'hôpital de Birambizo en février dernier. Au regard des preuves, indique le communiqué, la société civile prévient qu'elle n'acceptera aucune négociation politique qui tiendrait à soustraire les présumés auteurs des crimes internationaux de leur responsabilité pénale par leur intégration au sein de l'armée nationale comme par le passé. Elle exhorte la population de veiller à ce qu'aucun trophée ne soit remis aux terroristes du M23, au gouvernement congolais de solliciter l'appui de la communauté internationale afin de poursuivre tous les présumés auteurs de ces crimes.
Ici à Kinshasa, l'opération d'identification biométrique des professionnels de la justice militaire révèle un effectif élevé des militaires ne faisant pas partie du siège, d'après le contrôle fait récemment par l'inspection générale des FRDC. Ils se sont fait identifier comme membres de la haute cour militaire alors qu'ils ne le sont pas. C'est ce qu'a relevé le premier président de la haute cour militaire lors d'une parade organisée hier à Kinshasa. Le lieutenant général Joseph Mutombo Katalay a, dans une causerie morale, invité 153 militaires rassemblés autour de lui, a dénoncé ce comportement au sein de la haute cour militaire. Il a aussi mis en garde tout celui qui sera désormais auteur de la perte constatée des munitions, armes et autres matériels militaires en coopération avec les bandits. Il s'exposera ainsi à des poursuites judiciaires, selon le général Mutombo. À Beni, une dizaine d'éco-gardes du parc national des Virunga ont prêté serment le week-end dernier en qualité d'officier de police judiciaire OPJ à compétences restreintes à matière de conservation de la nature. Serment prêté devant le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Béni après 5 jours de formation sur le droit pénal général et spécial ainsi que sur la rédaction des procès-verbaux et la procédure pénale civile et militaire. Le conservateur et chef du secteur nord du parc national de Virunga dit attendre de ce nouveau OPJ un travail de qualité dans le respect de la déontologie professionnelle. Eric Kitakia le dit au micro d'André Kitenge.
Il faudrait que tous les éco-gardes qui ont été formés comme OPJ soient en mesure de mener de bonnes enquêtes préliminaires, d'apprécier les fins suivant leur gravité, détruire des dossiers et de les transférer auprès de l'officier du ministère public. Cette formation a porté sur différentes matières, notamment les droits pénal général, les droits pénal spécial et les enquêtes préliminaires, la rédaction des PV, la déontologie des OPJ, les droits pénal militaires et d'autres matières. Le besoin était vraiment énorme du fait qu'il faudrait que non seulement les éco-gardes soient en mesure de connaître la loi sur la conservation de la nature, mais qu'ils soient aussi en mesure d'apprécier les dossiers suivant leur gravité et de déférer les cas suspects auprès du ministère public. Je demande à tous d'être d'abord fiers d'eux-mêmes et d'être loyaux et d'instruire les dossiers en état net avec toute la déontologie qui nous a été apprise.
En Ituri, 33 cas de violence sexuelle ont été enregistrés au mois de mars dernier par le bureau Jean du groupement Bafouambaya à 300 km de Bounia sur le tronçon Nyania-Isiro dans le territoire de Mambasa. Selon des sources locales, 7 cas de viol ont été recensés la semaine dernière dans les sites miniers Vatican et Cambase. Des ONG locales fustigent le manque de soins de qualité pour les victimes de ces violences sexuelles et l'impunité des présumés auteurs de ces actes. Ezekiel Mouzalia.
Selon des sources locales de sécurité, des cas de viol et d'autres violations des droits de l'homme sont commis quotidiennement dans les sites miniers dans cette région. Selon le rapport des bureaux genre qui a effectué une visite dans certaines structures de prise en charge des victimes, 33 femmes sont déjà violées depuis le début du mois de mars dernier dans ces milieux. Les victimes dont l'âge varie entre 10 et 17 ans sont les filles démunies qui travaillent dans des puits d'or et des femmes qui circulent avec leurs marchandises dans les carrières minières. Les auteurs sont essentiellement des hommes armés en uniforme et des creuseurs artisanaux qui ne sont pas inquiétés. Esther Andama.
Nous les femmes, nous pensons que nous sommes marginalisés. C'est nous qui sommes victimes à chaque fois des viols. Il y a des femmes de 17 ans, 18 ans et même des mamans. Nous demandons au gouvernement de nous aider.
Le médecin chef des zones de santé indique que certaines victimes qui ne sont pas bien prises en charge manifestent des lésions et des traumatismes.
Il y avait des lésions, des traumatismes au niveau du périnée, tout ça. Compte tenu de la stigmatisation, les affaires là ne veulent pas consulter les services sanitaires.
Des ONG locales plaident pour l'ouverture des enquêtes en vue d'établir les responsabilités pour que les auteurs de ces viols répondent de leurs actes devant la justice. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Je vous le disais dans les titres, plus de 100 000 personnes sont sans abri et sans aucune assistance jusque-là. Ce sont des victimes des dernières pluies diluviennes dans les territoires de Bukama et Malembankoulou dans la province du Olomami. Le député provincial du Olomami, Kalenge Mwenzeni, tire la sonnette d'alarme. Ces personnes sont exposées aux intempéries. Ils ont besoin d'une aide d'urgence. Les détails avec Jean Gandou.
Ce sont les pluies abondantes qui s'abattent dans la région qui ont fait déborder les eaux du fleuve dans les deux territoires. À Bukama, les quartiers les plus touchés sont notamment Kisangwa Bioni, Bukama et le quartier commercial. Les eaux ont envahi les maisons, obligeant les occupants à abandonner leurs résidences et à chercher refuge ailleurs. Les uns sont dans les familles d'accueil et les autres passent la nuit à la Belle Étoile, s'exposant ainsi à toutes sortes d'intempéries. À Malimbankoulou, le spectacle est presque le même, mais les victimes sont moins nombreuses qu'à Bukama. Les villages riverains les plus touchés sont Kimwenze, Bouiné-Malengue, Bouyaba, Mwanzampungwe, Kisamboué, Kana et Kayumba. Dans tous les deux territoires, on compte aussi des maisons endommagées. Le député provincial Kalenga Mwenzemi a, dans une motion d'information, saisi le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, qui aussitôt a fait des recommandations au gouvernement provincial pour des interventions urgentes. Pour le professeur Jean-Pierre Ndjibou, expert en environnement,
combiner les pluies, les orages avec des vents violents, les constructions anarchiques associées au déboisement, les chaleurs intenses provoquent certainement des inondations, et cela se fait pratiquement chaque année. Le changement climatique au niveau mondial, certainement, étant le facteur influençant.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kavi.
Drame au sud Kivu. 4 personnes membres d'une même famille sont mortes dans un incendie hier matin au quartier Chikoni, dans la commune de Bagira, ville de Bukavu. Plusieurs biens sont également partis en fumée. Selon la société civile locale, les 4 victimes sont les parents et leurs 2 enfants. L'origine de l'incendie demeure inconnue. La société civile regrette ces incendies à répétition dans la ville de Bukavu. Elle plaide auprès des autorités pour que soient menées des actions qui permettront d'endiguer ce phénomène. Les programmes de développement local des 145 territoires emploient 80% de la main-d'œuvre locale dans la province de Sud-Ubangi. Affirmation à la presse de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, qui le gère dans cette province. C'est en marge d'une rencontre entre cette cellule et la communauté de Gemena. Paul Matendo est notre envoyé spécial dans le chef-lieu du Sud-Ubangi.
Cette main-d'œuvre dite qualifiée est composée, entre autres, des ingénieurs, des maçons, des charpentiers, des ferrailleurs, mais aussi d'une main-d'œuvre simple, c'est-à-dire des personnes habilitées à exécuter toute tâche. Cela permet à ces travailleurs, selon Stéphane Zou, l'un des notables de Gemena, de répondre à leurs besoins socio-économiques.
La main-d'œuvre locale, c'est bon, c'est pour aider aussi la population de survenir à leurs besoins. Nous voyons ici que ça, c'est très bien pour que le développement de notre territoire, soit de Gemena, de Libengue, de Boudjala, puisse développer.
Parmi ces travailleurs localement recrutés, Lisette et Lika Amani.
Je m'occupe de la surveillance et des contrôles des travaux.
Alors, dis-nous, les travaux sont avancés à quel niveau?
Avec les 2 mois qu'on a fait, nous avons fini la fondation. Nous sommes sur l'élévation du hall de causerie et le bâtiment principal du centre de santé.
Ce programme permet également aux jeunes apprenants des métiers à faire des exercices pratiques dans les 41 chantiers développés à travers la province, a indiqué la CFF. De la ville de Gemena, dans la province du Sud-Ubangi, Paul Matindo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, Khartoum, la capitale, tremble ce mardi sous les raids aériens et les rafales des tirs des paramilitaires au 4e jour d'une lutte entre généraux au pouvoir. Ces derniers ignorent les appels internationaux de plus en plus nombreux à cesser les hostilités après près de 200 morts déjà enregistrés, signale l'agence France-Presse. L'ONU, elle, recense 1800 blessés et sûrement plus que ce chiffre, tant les accès sont difficiles pour les patients comme pour les médecins, note l'agence France-Presse. Les raids aériens ont déjà frappé 4 hôpitaux à Khartoum, s'alarment des médecins. Dans tout le pays, 16 hôpitaux sont désormais hors service. Ce mardi, le général Daglo a annoncé avoir approuvé un cessez-le-feu de 24 heures. Une déclaration de la rébellion visant à dissimuler sa défaite imminente a aussi été dénoncée l'armée et sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhan qui dirige le pays depuis le août de 2021. Les habitants, eux, sont en majorité cloîtrés chez eux sans électricité ni eau courante.
L'invité
de ce journal, c'est l'ingénieur Alain Mugango, chef de division technique à l'Office des routes Sud Kivu. Il revient sur la question de la dégradation des routes nationales qui passent par la province du Sud Kivu. Il s'agit notamment des routes nationales numéro 2, axe Bukavu-Goma, numéro 3, Bukavu-Walikale-Kisangani et numéro 5, Bukavu-Uvira. Alain Mugango s'entretient avec Jean Kassami. Suivez.
Alain Mugango, vous êtes le chef de division technique à l'Office des routes Sud Kivu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est l'état des lieux sur la route RN2 et la RN5?
La route nationale numéro 2 était coupée au niveau du lycée Wima. Et donc, il y avait plusieurs institutions qui étaient pénalisées avec cette coupure. grâce au plaidoyer de son excellence le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, à travers le gouvernement central, nous avons reçu les fonds. Et c'est comme ça que nous avons commencé à intervenir. Nous avons déjà réussi à réduire la pente qui empêchait les véhicules de monter vers l'ISTEM. Et nous continuons avec les travaux de rechargement pour permettre à ce que les véhicules passent aisément. Les moyens que nous avons reçus consistent à recharger, à reprofiler les tronçons ISTEM et Place de l'Indépendance. Il est vrai que, des fois quand il pleut, la route, ça glisse. Nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire. Mais pour l'instant, la priorité, c'est d'abord la faille du lycée Ouima. Parce que la route était coupée, les habitants de Chiriri et Karal n'arrivaient plus à rejoindre la ville. C'est comme ça que, dans toute urgence, nous nous sommes attelés pour travailler l'affaissement du lycée Ouima.
Sur la RN5, du côté pont Kakenge aussi, ça posait problème. Est-ce qu'il y a une ébauche de solution également de ce côté-là?
À Kakenge, il y a les ponts, c'est OP98, qui était parti. Alors, il était question dans un premier temps d'aménager une déviation et c'est toujours avec le plaidoyer du vice-premier ministre, nous avons reçu les moyens pour aménager un passage à gué. Actuellement, nous sommes en train de recharger parce que c'est un terrain marécageux et nous pensons que d'ici une semaine, les véhicules vont commencer à passer sans s'embourber. Nous sommes en train de mettre la bonne carrière, les matériaux latéritiques pour permettre à ce que le trafic reprenne en bon escient.
Les travaux des routes dans la province, c'est un grand chantier. À part les deux tronçons-là qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'il y a d'autres travaux en cours?
En effet, nous avons reçu le financement du FONER dans notre programme d'entretien routier. Et là, ça nous a permis de nous déployer sur la RN3 vers Miti-Bunyakiri. Nous sommes également à Chabunda. Et même dans la plaine de la Ruzizi, nous sommes en train d'exécuter des travaux de lutte anti-érosif. Mais aussi, il y a d'autres projets qui vont bientôt commencer et nous sommes en train de nous mobiliser pour que le programme soit effectif.
Puisque vous venez de citer la RN3, on a vu les travaux lancés avec pompe, mais après un moment, ça s'est arrêté. La reprise, ça aura lieu quand?
Sur la RN3, effectivement, nous avions commencé, mais il s'est fait qu'à Luzira, sur la RN2, il y avait un problème, les ponts aussi étaient partis. C'est comme ça que nous avons utilisé les matériels qui travaillaient sur la RN3. Nous les avons pris momentanément, mais pour l'instant, les matériels sont déjà rentrés et l'équipe est en train de travailler.
L'autre fois, l'Office des routes Sud-Kivu évoquait le problème de manque de moyens, des outils vétustes. Aujourd'hui, ces problèmes-là sont-ils écartés ou ils demeurent réels?
En tout cas, la vétusté des engins, c'est vraiment un grand défi. Et d'ailleurs, nous profitons de cette occasion pour lancer notre cri d'alarme. Les matériels, nous les avons acquis il y a de cela plus de 10 ans. À part ça, il y a la rareté des pièces de rechange. On ne sait pas trouver les pièces de rechange sur le marché local. Et ça handicape un peu le rythme du travail.
Et que donc cette vétusté du matériel et tous les autres problèmes annexes ne permettraient pas aux habitants de Chabunda, par exemple, de Fizi, d'espérer avoir une route carrossable pendant cette saison sèche qui s'annonce?
Non, nous allons nous battre avec les moyens de bord. Nous avons de bons techniciens. Et il est vrai que ça peut impacter sur le planning, mais pas sur la qualité du travail.
Monsieur le chef de division technique à l'Office des routes, Alain Mugangu, nous vous disons merci.
Merci, monsieur le journaliste.